Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue à la 100e émission du Guide de l'auto sur Cube Radio. Germain, salut.
Bonjour Antoine.
Fébrile?
Fébrile, oui. Hein? Et surtout, je te trouve patient de m'avoir enduré.
Non, mais c'est un honneur. C'est un honneur de partager le micro en ta compagnie, Monsieur Goyer.
Ben oui. Et bien franchement, je me demandais, quand on a commencé l'émission, où s'en allait tout ça, parce que c'est un projet qui est né pas mal sur le coin d'une table et on...
comme le projet de la grosse brune aussi.
Comme le projet de la grosse brune aussi. Ouais. Donc, c'est une idée qui s'est développée tranquillement. Donc,
le projet de la grosse brune, c'était sur le coin d'une table de bois.
Fait que de voir que presque 2 ans plus tard, là, après et 100 émissions après cette première émission qui avait été enregistrée, hein, on se rappelle, en direct au Salon de l'Auto.
Ouais.
Donc, et après ça, ça roulait comme sur des roulettes.
Alors, pour cette...
Oui, c'est ça, on a une émission spéciale. Hein?
C'est ça. Fait que pour cette 100e émission, on va se payer la traite un peu. On va recevoir 2 invités que vous connaissez bien. Le premier, c'est l'instigateur, l'inventeur du Guide de l'Auto. C'est oui. Jacques Duval qui va être avec nous un peu plus tard. Et s'en suivra Michel Barrette qui, je pense, est reconnu pour sa passion automobile aussi.
Et il y a toujours 2-3 mots à dire sur l'automobile.
Ça. Dans le fond... On s'est écrit une question
oui.
pour Michel Barrette, et puis après ça, ça va être du ad-lib pendant 3 heures. Fait que on va voir ce que ça va donner. Et puis...
On a aussi sorti là les meilleurs moments. Il y en a pas beaucoup. Non. On a sorti les meilleurs moments des 100 premières émissions. Et comme tout ça coïncide aussi avec la fin de l'année, on a sorti les actualités marquantes de l'année 2020. Les véhicules qu'on a hâte de voir en 2021, les véhicules qui nous ont marqué cette année. Bon, voilà.
Alors, donc, c'est sous une formule rétrospective
oui.
et historique que se présente cette 100e émission.
Oui.
Et on va commencer à parler de ces actualités marquantes, à commencer évidemment par, la COVID et tous les impacts que ça a eu sur le milieu automobile, l'annulation des salons de oui. l'auto d'abord.
Ben c'est ça, ça continue de nous tenir occupés, ce virus-là, et
ouais.
d'avoir des impacts sur le milieu automobile. Mais je pense que les premiers impacts qu'on a pu ressentir, c'était justement l'annulation des salons de l'auto. On se rappelle le premier, hein, le salon de Genève qui avait lieu en mars, finalement qui n'a pas eu lieu. D'ailleurs, l'édition 2021, elle non plus n'aura pas lieu.
Puis Détroit, parce qu'on ouais. se souviens que Détroit, pour oui. la première fois, n'avait pas lieu en janvier. C'était reporté au mois de juin.
Et là, on se disait, là, le salon de New York au mois d'avril, mai, autour de Pâques, toujours, avec le salon de Détroit qui allait avoir lieu tout juste après.
Ouais.
On se demandait bien de quoi ça allait avoir l'air, mais ça a l'air qu'il va falloir continuer de patienter. Donc, tous ces salons-là ont été annulés. Et on le rappelle quand même, là, les salons de l'auto, était déjà dans une période de questionnement
ben.
Parce que on devait gérer une décroissance. Hein? Le temps de décroissance est à la mode, mais avec les salons de l'auto, c'était carrément ça. Donc, un nombre de visiteurs qui était à la baisse hein, depuis plusieurs années. Et
beaucoup plus que ce qu'on nous laissait croire, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Et on était chanceux à Montréal parce qu'on avait encore un nombre considérable de visiteurs
ouais.
pour le poids de ce salon-là, mais donc c'est ça, le nombre de visiteurs qui est à la baisse et l'implication des concessionnaires qui est à la base même des salons était elle aussi là,
concessionnaire et constructeur. Ouais.
Donc de les voir se retirer remettait en question l'existence même d'un salon de l'auto. Et j'ai bien peur que de sauter un an comme ça, ça risque de faire mal.
Moi, je suis persuadé honnêtement que des salons automobiles tels qu'on les a connus, on ne reverra pas ça. Je garde un très, très beau souvenir des meilleures années du salon de Genève que moi, j'ai pu visiter, des belles années du salon de Montréal, etc. Même New York, Los Angeles, etc. Mais
avec des dévoilements massifs.
Ah, c'est incroyable. Mais ça, on ne reverra plus jamais ça. Non. Et si on a un salon de l'auto, si on revient avec un salon de l'auto à Montréal tel qu'on l'a connu il y a 2 ans, je vais être le premier surpris, honnêtement.
Ouais.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des constructeurs qui réembarqueront pas là-dedans. Il y a des gens qui vont réaliser qu'on peut placer le budget ailleurs. Les gens ont utilisé les plateformes web plus que jamais cette année, se sont rendus compte qu'il y avait des façons de se divertir, de s'informer en automobile.
Et à quel point les gens vont vouloir s'entasser à nouveau au palais des congrès aussi, là, parce que, on prend l'exemple de Montréal, parce que c'est peut-être celui que avec lequel les gens sont le plus familiers. Des gros samedis, il y a 30 000 personnes qui défilent au palais des congrès dans un milieu fermé.
Tout ça pour avoir le privilège de s'acheter une pointe de pizza à 16 $ qui
en
est
plus,
pas mangeable.
En plus! Donc, tu sais, il y a l'accessibilité au centre-ville qui demeure un enjeu. Donc, c'est...
Mais quoi que là, le centre-ville...
Oui, il est plus accessible.
Il est plus accessible.
Mais toujours est-il que c'était un enjeu.
Absolument.
Donc, j'ai bien hâte de voir comment les salons de l'auto vont évoluer. Mais une chose est certaine, ils n'ont pas eu la tâche très facile cette année.
Non, absolument. Il y a le kiosque de Volkswagen au Salon de l'Auto qui risque d'avoir beaucoup plus d'espace si Salon de l'Auto il y a dans les prochaines années, parce que on a appris récemment que la Volkswagen Arteon ne revenait pas, la Passat serait abandonnée, mais qui plus est, la voiture phare de Volkswagen, c'est la Golf, qui ne sera pas de retour pour une 8e génération. Donc, Volkswagen va conserver ses sportives, là, GTI, Golfer, mais à part ça...
Mais la Golf traditionnelle, comme on la connaît depuis quoi, une quarantaine d'années, tout ça s'est terminé. Donc,
faut pas oublier qu'on a abandonné la Beetle il y a à peine 2 ans, un an et demi.
Donc le VW perd des plumes, perd de grosses plumes. Donc je te dirais que c'est peut-être la nouvelle qui m'a le plus affecté là, dans l'automobile cette année, de voir la Golf disparaître. C'est un modèle auquel j'étais attaché. Et Volkswagen perd une partie de son âme, de son aura avec la perte de la Golf. Et on nous avait dit, on se rappelle, Antoine, initialement, elle devait être vendue au Canada.
On savait que les Américains ne l'auraient plus.
Eux, ils avaient dit non, on n'en veut pas, mais c'est correct. On sait que la Jetta était plus populaire de leur côté, mais on nous avait dit qu'au Canada, on allait l'avoir. Puis finalement, on ne se permettra pas de perdre des sous avec chaque unité vendue parce que, c'est ça, la Golf de 8e génération est plus moderne que jamais, plus technologique que jamais, et coûte très cher à produire et de la vendre sur, finalement, juste le marché canadien à l'échelle nord-américaine, c'était pas rentable. Donc, voilà. Donc, Arteon qui va nous quitter, la Passat qui va nous quitter et la Golf qui, elle, nous a déjà quitté. Donc, pas une année très, très réjouissante chez Volkswagen.
Oui, mais on a l'Atlas Crossport.
C'est correct, Antoine, c'est correct.
Germain, lors des 99 premières émissions, évidemment, on a reçu des invités pratiquement à chaque émission et on a décidé de répertorier 5 entrevues marquantes, soit parce qu'elles ont été super populaires, parce que les gens l'ont beaucoup écouté après quoi, ou parce que pour nous, elles ont été significatives. Et on commence bien sûr avec l'entrevue de la toute première émission, celle qu'on avait réalisée avec Antoine Bessette, qui est à l'origine de la voiture
de la Felino CB7.
Donc une voiture franchement impressionnante.
J'ai couru en Formule Atlantique, j'ai couru en Formule 3 en Europe, en Daytona Prototype aussi, en série Rolex. En 2010, j'ai arrêté, 2009 même, j'ai arrêté de courir. J'ai pris quelques mois off, puis j'ai eu la brillante idée de me partir une compagnie de voitures à la place.
OK. Alors, un projet audacieux, parce que qu'au Québec, c'est pas facile
de
développer une voiture à partir de presque rien.
Oui, exact. Mais avec mes 10 ans que j'ai été sur la piste avec mes ingénieurs, on cherche tout le temps les dixièmes de seconde, on essaie de se dépasser au maximum. Puis moi, c'est plus fort que moi, il faut toujours que je me challenge un peu plus. Et là est venue l'idée de je vais me bâtir une voiture avec une position de formule, avec le background que j'avais. Alors les premiers dessins qui ont été photos qui ont été pris, là, j'ai vraiment littéralement mon bad de Formule Atlantique. J'ai la position de conduite que j'avais et on a bâti une voiture autour de ma position de conduite que j'avais pensé l'idéal.
On dit un peu la même chose du côté de la Mazda MX-5. On dit qu'on a bâti une voiture autour du conducteur. Chez Mazda, c'est une belle formule marketing,
ouais,
mais dans ton cas, c'est 100% ça.
Oui, c'est très vrai. Là.
Oui. Et je vous le mentionne, moi, j'ai tenté de m'asseoir dans la voiture d'Antoine un peu plus tôt cette semaine, en fait, jeudi, et le siège est moulé pour lui-même, ce qui fait que moi, étant un petit peu plus large, juste un petit peu, là, pas
juste
beaucoup,
peu.
Là, juste un peu,
c'est juste pas même place.
Ça marchait pas. Ça marchait
exact.
Pas.
Oh, oui, c'est ça.
Mais j'ai quand même pu m'imaginer la position de conduite dans cette voiture-là, qui est absolument géniale.
100 émissions plus tard, Antoine, est-ce que tu serais capable de prendre place à bord de la Filino d'Antoine, mais Antoine Bessette?
En vrai, il fallait que je l'appelle à la deuxième semaine pour lui dire de fabriquer un deuxième siège pour que je puisse me glisser dedans en tout confort, parce que non, je pense que c'est plus l'effet inverse, considérant que la COVID a eu un effet négatif sur la largeur de mon postérieur.
Et peut-être pour les gens qui se demandent pourquoi la qualité sonore était celle qu'elle est, on était à ce moment-là en direct au salon de l'auto, donc les visiteurs défilaient devant nous, donc et c'était effectivement la première entrevue qu'on a menée. On en parlait un petit peu plus tôt à cette émission-ci, Antoine, alors qu'on parlait de la chic Fiero malhabilement transformée en Ferrari qui appartient à Luc Poirier. Bien, on s'est entretenu, toi et moi, avec Luc Poirier au printemps 2019 et voici l'extrait qu'on a gardé pour vous.
Est-ce que tu es venu avec ton bolide aujourd'hui?
Non, je suis venu en VUS.
Mais on va dire aux auditeurs, c'est quoi le bolide en question?
Oui, le bolide en question, là, on parle pas d'une Camaro SS, on parle pas d'une voiture.
On parle d'une voiture avec seulement 4 exemplaires au Canada, dont 2 au Québec, et c'est une Ferrari. La Ferrari.
Ouais, c'est toute une voiture et Luc, tu viens de faire l'acquisition de cette voiture-là. Le processus d'achat d'une voiture comme ça, c'est quoi? Parce qu'elle est pas neuve, là.
Non, mais j'aurais peut-être pas été capable d'acheter une neuve, là, en fait, probablement pas. Je l'ai acheté usagé parce qu'il faut se qualifier pour avoir accès à ce genre de véhicule-là. Il y en a 500 dans le monde, 499 dans le monde. C'est vraiment Ferrari qui choisit directement d'Italie. Donc,
ses acheteurs.
Oui, exactement.
Comment ça fonctionne, le processus de sélection, c'est quoi?
Ben, il y a 4 critères, dont un, c'est de n'avoir acheté avant, donc d'être déjà client avec la marque.
Ce qui était déjà ton cas.
Oui, j'ai acheté 23 voitures neuves de Ferrari depuis 2005. Ouais.
C'est 23 de plus que moi, c'est ça.
Ouais,
OK.
Ouais. Donc, de ce côté-là, j'étais OK, mais il y a 3 autres critères. Je me souviens pas exactement c'est quoi, mais il y en a un, c'est d'avoir des autos de collection. Donc, des vieilles autos, des classiqués qu'on appelle.
Okay. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu aimes les vieilles voitures?
J'aimais pas les vieilles voitures, sauf la Dino, par exemple. Et j'aimais aussi la série des 8 cylindres 328, par exemple.
Oh, ouais, okay.
355.
Donc, si tu es les gens à 328, 308, là, on parle de la voiture de Magnum PI.
Oui.
Est-ce que le processus d'achat de la grosse brune était si laborieux, Antoine?
En fait, j'ai tenté de contacter American Motors pour me qualifier comme acheteur et malheureusement, ça répondait plus quand j'ai téléphoné. Donc,
il n'y avait plus de service au numéro que vous avez
proposé. Non, j'ai décidé de me tourner vers le marché d'occasion et c'est comme ça que j'ai pu trouver une AMC Matador qui avait été considérée comme une survivante. Alors, le jour où ça répondra au téléphone chez American Motors, peut-être que je serai préqualifié pour en acheter une neuve.
En acquérir une nouvelle?
Ça se pourrait que j'attende longtemps, par contre. Alors, on a parlé, évidemment, avec Luc Poirier au cours de cette entrevue-là. Et moi, j'ai pu tout récemment revisiter cette collection-là qui ne cesse de grandir, où on retrouve des bolides hallucinants. La Porsche 959 et la 288 GTO de Ferrari, c'est deux voitures extraordinaires des années 80. On dit, lorsque tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi les deux voitures exotiques les plus impressionnantes des années 80? D'emblée, on va te répondre la Ferrari Testarossa et la Lamborghini Countach. Deux voitures qui c'est vrai, sont des symboles des années 80. Mais en ce qui me concerne, la Porsche 959 et la 288 GTO, ce sont des voitures beaucoup plus exceptionnelles sur le plan technique que la Countach et que la Testarossa. Et plus rare aujourd'hui. Et plus rare. Et évidemment, Luc Poirier possède les deux. Alors, collection vraiment, vraiment impressionnante. Troisième entrevue qu'on a faite qui était très intéressante à l'époque où on commençait à fermer des pistes de course un peu partout. C'était avec Jacques Gertin, qui est propriétaire du circuit de Sanerre en Montérégie.
Et qui revenait sur quelques souvenirs d'une époque peut-être un peu plus glorieuse que la nôtre.
Oui, exactement.
Grand National, c'était le seul événement de la National Trot qui venait au Canada.
Donc, c'était un événement de course d'accélération.
Oui, oui. C'était, le Grand National était l'accélération, ce que la F1 est au circuit routier, mettons.
OK, oui, oui, c'est ça.
C'était aussi gros que l'île Notre-Dame, là. Il y avait beaucoup de monde, là. Les routes étaient bloquées de Sainte-Sainte à Saint-Pie, puis de la 112 jusqu'à Sanerre, là, c'était bloqué dans les deux sens, là.
Moi, j'ai assisté sans m'en souvenir, parce qu'on s'est discuté, on s'est parlé il y a quelques jours, M. Gertin et moi, pour les fins de cette entrevue-là. Et puis, je me rappelle avoir assisté à une course d'accélération du Grand National en 90 ou 91, où mon père m'avait amené.
Sur la fin, là.
Oh, oui, c'était sur la fin. C'était incroyable, la foule, là. C'est incroyable, la foule, là. C'est l'envergure de cet événement-là. On ne voit plus ça au Québec aujourd'hui sur n'importe quelle piste de course, mis à part le Grand Prix de Montréal, disons. Voilà. C'était incroyable de voir ça. Puis rappelez-moi ce qui a tué ça encore une fois.
Le règlement du gaz avec plomb qui est par le ministère de l'Environnement fédéral. À ce moment-là, c'était en 92, c'était le dernier événement. À ce moment-là, NHRO, ils ont fait des recherches et puis ils ont prouvé au gouvernement que la pollution qui est engendrée durant le Grand National à Sanerre, c'était égal à 5 secondes de métropolitain le matin à l'heure de pointe.
Ah, Seigneur. Okay.
Donc, ça donne une idée à quel point c'est négligeable là, comme pollution qui était émise. Là.
Très négligeable. On garde nos arbres autour. On est entouré de verdure qui consomme le carbone en plus.
Non, ça, on s'entend que, bon, c'était de la politique. Là. C'était purement de la politique. Là,
c'était vraiment politique. Aucune raison pourquoi. C'est une perte économique. C'est une perte de retombées financières pour les environs. C'est rendu au Kansas maintenant. Topeka au Kansas.
OK. Fait que ça a déménagé quand même assez loin. Là, évidemment, Sanerre, ça a été la série Transam, le IndyCar, les pistes d'accélération, les courses d'accélération ont toujours été sur place. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Puis, vous êtes la seule piste au Québec pour l'instant. Ben, en fait, et comme les pistes disparaissent une après l'autre, alors, ouais. Ça vous donne encore un avantage à avoir le demi-mille en accélération. Germain, évidemment, suite à cette entrevue-là, j'étais bien content parce que M. Gertin m'a contacté puisque peu de temps après cette entrevue-là, lui, il était en litige avec la ville, était en litige avec plusieurs personnes pour des plaintes par rapport au bruit de son circuit et il a tout gagné.
Ah ben ça, c'était une bonne nouvelle.
Et l'article que j'avais rédigé cette même semaine-là, mm-hmm. ainsi que l'entrevue radio qu'on avait faite, a porté fruit.
Ça lui a donné des munitions.
Exactement,
là.
Il les a utilisés comme éléments de preuve et ça a aidé. Alors, j'étais assez content d'avoir pu contribuer au gain de cette petite bataille-là, bien que Sanerre ne risque pas de redevenir
ce qu'elle a déjà été.
Ce qu'elle a déjà été, exactement.
Comme quoi, on sert à quelque chose.
Oui,
fois.
Exactement, voilà. Exactement.
Cet automne, on s'est entretenu, toi et moi, avec Pierre-Yves McSween, hein, qui est connu pour parler de finances d'une manière peut-être un peu moins bobrun que celle à laquelle on est habitué. Et avec nous, il est venu...
Qu'est-ce que t'as contre le brun, toi? Parce que...
J'adore le brun, merci. Mais pas pour la couleur de mes chaussettes.
D'accord.
Donc, on a reçu Pierre-Yves McSween, avec qui on s'est entretenu sur les finances, mais surtout sur l'automobile.
J'ai envie de parler finance automobile okay. avec toi parce que on se fait souvent poser des questions du genre je devrais-tu louer ou acheter, je devrais-tu ouais. financer sur jusqu'à combien de temps, qu'est-ce qui est logique. Puis évidemment, en lisant ton livre, tu y vas de façon assez drastique avec une automobile en disant garde, c'est probablement le pire achat que tu peux faire en termes de placement financier.
Ça, oui,
et là-dessus,
mais...
tu as raison.
Mais c'est pas. Il y a du cœur aussi dans l'automobile, je peux comprendre ça. Il y a de la passion.
Ce que tu n'as pas nécessairement exprimé dans ton livre.
Non, mais, il faut savoir aussi que pour quoi 99 % des consommateurs, l'automobile est simplement un moyen de transport.
Ah, c'est pas vrai parce qu'on roulerait tout en Pontiac Wave. Tu comprends?
Oui.
Tout le monde est influencé quelque part par le marketing parce que. Même moi, je trouve ça beau une belle voiture, puis je trouve ça lait un pas beau char. Sauf tes laits chars à toi, parce que ça devient des pièces de collection telles. Ils ont dépassé le côté lait, ils sont rendus vintage kitsch.
Voilà.
Mais, en général, une voiture, on dit que c'est le prolongement de notre personnalité, ça, j'en doute. Là, mais.
T'as une méchante personnalité, Germain, si je regarde la grosseur de tes voitures. Là.
Mais, vous deux, avec vos collections, vous êtes des mégalomanes, probablement. Mais c'est vrai que ça influence. On est perçu. Juste à dire, quand je change de voiture, je remarque le regard différent des gens sur moi quand ils me voient sortir de l'auto. Et c'est complètement un peu ridicule quand tu y penses.
C'est très superficiel.
Mais oui, parce que ta voiture, une fois qu'elle est stationnée, t'as la même personne. Dans la conférence, je disais tout le temps. Sur le livre, je disais tout le temps, si vous voulez une voiture de luxe pour le prestige, achetez-vous un porte-clés. Comme ça, dans les 5 oui. à 7, vous droppez le porte-clés sur la table.
Ben, les compagnies automobiles ont compris ça depuis longtemps. Ils nous font des clés de voitures aussi grosses que des télécommandes de télévision avec un logo 4x8 dessus.
Oh, oui.
Pour être certain lancer ça sur le bord de ce temps-là, c'est dur parce que les barres sont fermées.
Faut que tu le lances plus loin.
Puis lancer un Tercel, là, c'est pas. BM, oui, va être ostentatoire, tout ça.
Ouais, mais si tu déposes ton portefeuille qui a 4 pieds d'épais à côté d'une clé de Tercel, il y a quand même quelque chose de weird avec ça aussi.
Il y a beaucoup de factures.
Il y a beaucoup de factures, c'est ça.
Les bars sont toujours fermés. Bon, depuis cette entrevue et mes voitures LED sont toujours aussi LED et je pense que c'est ton cas aussi.
Oui, c'est absolument mon cas. La grosse brune qui
prend a toujours son bois
et prend autant de place dans le garage.
Et au moins le bois ne donne pas de feuilles à ramasser à l'automne.
Non, tu vois. Alors,
faut voir les bons côtés.
Mais c'est intéressant parce que sur un plan personnel, on savait au moment de faire l'entrevue avec Pierre-Yves McSween qu'il venait de s'acheter un Audi Q5.
Effectivement.
Et sa conjointe avait trouvé que c'était...
Que c'était bien.
Fait que elle aussi, à son tour...
Un peu luxueux. Là.
Elle aussi, à son tour, s'est acheté un petit VUS de luxe pour compétitionner son chum. Comme quoi, même chez des couples jugés très rationnels, il y a un peu de passion.
effectivement. Ça nous rassure, hein, quand même.
Oui,
comme quoi, on n'est pas les seuls à faire des achats, peut-être pas toujours rationnels.
On va parler de passion avec un gars qui vit de la passion à fond la caisse et à fond le portefeuille.
Ben oui, on a reçu à l'émission Olivier Benloulou suite à un accident qu'un de ses pilotes, donc Maxime Boulandier-Lécuyer, au volant d'une Nissan GT-R pendant un week-end de course, finalement, le parachute ne s'était pas déclenché. Donc, à 375 km. Si je me rappelle bien, il avait pas été en mesure justement d'immobiliser le véhicule à temps. Donc, ça avait été une embardée assez spectaculaire. Donc, on avait reçu Olivier Benloulou pour venir nous raconter ce qui s'était passé. Et on avait fini l'entrevue en se permettant de rêver un peu alors qu'il nous présentait les bolides qui l'attendaient et qui l'attend peut-être encore.
Probablement, oui.
Je vous donne quelques-unes, d'accord? Pour le concessionnaire, j'ai récemment commandé la nouvelle MC20 de Maserati.
Ouais.
C'est un nouveau concept. J'ai bien hâte de voir. Il me semble que c'est une voiture qui va être bien intéressante. Elle a tout pour avoir du succès. Alors, celle-là, elle s'en vient. J'ai déjà commandé il y a 2 ans que je vais recevoir l'année prochaine ma Pagani Huayra Roadster BC, qui est la Pagani qui est la plus poussée. BC, c'est les initiales d'un coureur automobile que Horacio Pagani connaissait très bien. Seulement 40 voitures au monde produites. Tous les nouveaux composites de fibre de carbone dans cette voiture-là. Le moteur est amélioré, transmission, suspension. C'est vraiment l'apogée des Pagani que je vais avoir l'année prochaine. Donc, je suis vraiment content de pouvoir être parmi les 40 au monde qui vont avoir cette voiture-là. J'adore, d'ailleurs, c'est une de mes marques favoris. Moi, je vais vous dire, moi, je suis Pagani et Mercedes, je suis vendu. J'ai également, ma prochaine voiture que je vais pouvoir recevoir, c'est la Koenigsegg Regera.
Oh.
Celle-là, ça fait déjà 3 ans que j'ai commandé. J'ai la Koenigsegg Jesko, qui est également en commande.
Oui, oui, oui.
2023. Oui, oui. J'ai la Pagani C10, qui est au fond le successeur de la Huayra. J'ai été invité pour être propriétaire de cette voiture-là que j'ai commandée. Et je vais vous donner une pour vous. Vous allez trouver ça complètement capoté. C'est que Horacio se faisait harceler par les propriétaires de Pagani, les puristes, et on lui demandait de revenir avec une boîte de vitesse manuelle.
Ah oui!
Et sur la C10, il nous dit, ah ben oui, imaginez-vous, on va avoir le choix, soit automatique ou manuel. Évidemment, j'ai opté pour manuel.
Bravo, donc, bravo, c'était le bon choix.
Ah, écoutez, j'ai déjà conduit des Mustangs dans le temps de 300 chevaux manuels, mais je peux pas m'imaginer une voiture de 760 chevaux manuels. Je sais pas quel genre de transmission qu'il va y avoir là-dedans, mais j'ai hâte de voir, c'est absolument incroyable. Une autre que j'attends incessamment, c'est la nouvelle AMG GT Black Series,
ouais.
Dont j'ai réussi à en obtenir une pour la seule raison que j'ai commandé une Project One de Mercedes